Est-ce qu'on se fait un petit thé? Alors, ça enregistre ou pas?
Oui, ça enregistre.
Ouais. Ce podcast, ça s'appelle pas « Nous inventons le podcast ».
Non, ça s'appelle « Un podcast de dragons et de romance ».
Ouais.
Écoute, j'ai lu quand même un quart de mes livres.
En fait, tu peux pas dire c'est la meilleure saga de la Terre, mais ça commence au tome 4, c'est pas plus. Hein.
Tout ça pour ça, quoi.
Voilà.
En vrai, on n'est pas au moins 18, non? Le podcast, je vais être vulgaire,
oui, tu peux.
Il peut aller te faire enculer.
Là, c'est de la mauvaise foi.
Certes. Ouh, accrochez-vous. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. J'aime quand c'est bien écrit.
Et des fois, on arrivera plus à aller on the point, nous verrons bien.
Yay!
Youhou!
Let's go! Je dois commencer par quoi déjà?
Bienvenue dans un podcast de dragons et de romance. Je suis Lecture des Lunes, alias Coralie.
Et moi, Laurélie Fantasy, alias Laurie.
Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et tous les mois pour un nouveau podcast blabla autour des livres. Et on commence toujours par les sorties de la semaine. Enfin, pas les sorties de la semaine, ça c'est
l'automatisme.
Parce que j'ai un format sur mon compte où je fais toutes les sorties de la semaine et du coup... Donc les sorties pour le mois de novembre. Est-ce que tu as repéré des sorties vu que tu as fait tes devoirs ce mois?
J'ai fait mes devoirs. Vous pouvez être fière de moi. Oui, je suis quelqu'un qui se remet en question. Oui, alors il y a du coup The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de chez le label Calyx, qui est une édition absolument magnifique. Et je dis pas ça parce qu'elle est rose. Elle est vraiment très belle cette édition.
Ah, bah, de toute façon, les éditions chez Calyx.
Et du coup, je suis très très contente que ça sorte parce que comme on n'a pas pu l'avoir avec, c'était quoi, Illumicrit ou Fairy Loot?
C'était Illumicrit.
Ouais. Et ben, je suis très contente que ce soit Calyx qui l'ait du coup parce qu'on a le droit à une vraiment très très belle édition.
Ouais, de ouf.
Qui est même, je trouve, meilleure que celle d'Oïe.
Ah, j'aimais bien celle-là, mais j'ai pas regardé à quoi elle ressemble l'édition.
Elle est trop belle, elle est trop belle.
J'irai voir. Ok, donc The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, c'est encore, pour ceux qui ne suivent pas trop le game de la fanfiction Dramion en ce moment, qui casse tout, est un peu dans les lignées Rose in Chain et Alchemized, qui sont tous basés sur des fanfictions Wattpad, mais qui ont été quand même réécrits, modifiés avec un système de magie qui est propre aux nouvelles histoires, donc qui n'ont plus grand-chose à voir.
Les persos d'ailleurs aussi, bien...
Qui n'ont plus grand-chose à voir avec les fanfictions d'origine, je pense, mais qui font très plaisir à tous les fans de fanfictions qui sont en folie.
Un peu, oui. Peut-être un peu trop, mais on y reviendra.
Et puis, il y a aussi, pour ceux qui ont aimé Divine Rivalité, moi, c'est la sortie du mois dont j'avais envie de parler, il y a un tome compagnon de Divine Rivalité qui va sortir là, qui s'appelle Féroce Déférence, et qui sortira le 20 novembre par l'autrice Rebecca Ross. C'est, je crois, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, mais ça se passe dans le passé de l'univers de Divine Rivalité. Et je crois que c'est basé dans l'histoire de Divine Rivalité. Il y a toute une mythologie autour des divinités qui ont disparu, qui se sont endormies, ou pour beaucoup qui sont morts. Il y en a quelques-unes qui sont endormies et la plupart qui sont morts pendant une espèce de grande guerre qu'on te relate pendant toute l'histoire. Et du coup, c'est basé sur l'époque où les divinités vivaient encore et étaient dans le monde et coexistaient plus avec les humains. Il y a une histoire d'amour, je crois, un peu autour de ça. Je suis bien tentée parce que franchement, j'avais bien aimé l'univers de Rebecca Ross et j'aime beaucoup sa plume. Elle a une très jolie plume. Il faudrait que j'aie d'autres trucs qui, ça devrait te plaire. Mais romancez-y, vraiment. Romance étant au centre de l'histoire, le world building est présent et est sympa et assez original, mais est pas du tout au premier plan de l'histoire.
Voilà. Chouette. On a aussi le tome 3 de L'Empire des Vampires de J. Christophe qui sort.
Tu les as lus?
Pas encore. Ils m'intimident un peu, ils sont gros et je voulais peut-être... En fait, je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas si je commence avec Nevernight ou si je commence avec L'Empire du Vampire. parce que je suis un peu partagée, trois tomes, deux trilogies,
Eh
qu'est-ce que
ouais.
je fais, par où je commence. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, c'est juste un truc personnel. Parce que apparemment tout est bien de lui, du coup, je ne
Du
sais
coup,
pas.
tu commences par ce qui te donne le plus envie sur le moment. Faut
Ouais,
lire les
mais.
quatrièmes de couverture de chaque
Ouais.
et puis faut y aller à l'instinct. Si de toute façon les deux sont bien.
C'est vrai. Dites-moi dans les commentaires par quoi je commence. Attends, est-ce que c'est l'heure du up and down?
Je crois que c'est l'heure du up and down.
On est d'accord que c'est deux down hein, en fait
Ouais,
aujourd'hui.
un peu.
Ouais, c'est carrément que des down.
Mais en
En
fait,
fait, on va
le
arrêter de
smut,
l'appeler
c'est...
up and
Ouais,
down.
je crois. Le smut, c'est pas vraiment ni up ni un down, à vrai
Oui.
dire. C'est plutôt un constat.
C'est un constat.
En fait, moi, je me suis fait la réflexion parce que récemment, on a lu toutes les
Ouais.
deux d'ailleurs, Witch's Guide to Fake Dating a Demon.
En français,
Et...
c'est le guide de sorcière pour faire semblant de sortir avec un démon.
Mais ils n'ont pas traduit, enfin en tout cas dans
Non,
la
mais je sais
version
pas pourquoi
papier,
ils
il
ont
n'a
pas
pas été
traduit. En
traduit.
fait, ça me saoule déjà. Tous les titres qui sont pas traduits, ça me rend dingue. Les francophones, ils savent, ils voient Witch et Demon, et c'est tout. Ils savent pas ce que c'est le reste.
Mais en vrai, ils se sont dit ça sonne bien en anglais et ça va vraiment super mal sonner en français et c'est
Non,
pas faux.
des fois c'est à cause des licences. Pour l'international, t'es obligé quand t'achètes une licence de garder un titre en anglais. Je sais que pour les mangas, ça se fait beaucoup. Par exemple, t'as un titre en japonais pour un manga, et
Ok.
ben t'as un titre imposé pour les licences internationales.
Ok.
Donc ça peut être une question de licence juste. Mais bon, ça fait.
Bref,
C'est
effectivement, du coup, ça n'a pas été traduit, donc ça s'appelle A Witch's Guide to Fake
fake
Dating a
dating,
Demon.
il
Et franchement, bon, alors on est sur un livre cosy, romance, avec un univers ultra léger
C'est
et
absolument
qui se prend
génial.
pas du tout au
On
sérieux.
adore, c'est très drôle. Et là,
Le smut.
il a le smut. Les gars,
Une
c'est
catastrophe.
infernal.
Un enfer à lire. Tout était cringe au possible. Les dialogues étaient... Moi, j'arrivais pas du tout à me les représenter, en tout cas. Je me disais, mais ouah, ça manque de naturel, de fou. Personne dit ça. Personne fait ça comme ça. En fait, le truc, c'est que j'ai eu le sentiment, moi, qu'elle essayait de conserver le ton un peu humoristique dans son smut. Et je me suis fait un peu la réflexion, ouais, en fait... Ça a ses limites dans le sens où dans le smut, c'est pas ça que t'attends d'une scène de smut. Et du coup, en fait, moi, ça m'a complètement sorti de l'histoire, mais complètement. Et je n'ai la dernière partie du livre, à partir du moment où il y a eu la première scène de smut,
Oui,
j'étais
là,
plus du tout
c'est.
dedans. J'avais plus du tout, j'adhérais plus du tout à l'histoire. J'étais juste là, et que ça se termine. Et c'est trop dommage. Mais du coup, je me suis vraiment fait la réflexion parce que, en fait, je me suis vraiment dit, le smut est un peu dévalué dans le sens où quand c'est un livre de smut où il y a du smut dedans, on va un peu nécessairement se dire bon bah c'est un peu un livre pour filles, pas très travaillé, pas très intéressant et pas très complet. Enfin, en tout cas, il va pas bénéficier du même prestige qu'un livre de fantasy épique, même une romance contemporaine mais dans laquelle les choses seraient suggérées. Enfin, je trouve que ça met tout de suite un peu une caution comme si ça d'évaluer un peu le livre au niveau de
Oui,
la qualité
ouais, on dévalue
de ce qui est
la
proposé
qualité
dedans.
parce qu'il y a du smut.
Et je me suis vraiment fait la réflexion que ça ne devrait pas, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à lire. Et je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les romances romantaisies que j'ai lues, dans lesquelles j'ai trouvé le smut réellement bon.
Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Sauf pour cette première scène de smut, ça m'a pas tant dérangé parce que. Je trouvais que le personnage en plus de Marielle, il est resté cohérent. Ce que souvent je reproche justement dans les scènes de smut, c'est que d'un coup, pouf, les personnalités des protas n'existent plus et c'est devenu des superstars du sexe. Que là, du
Ouais,
coup,
waouh.
pas du tout. Et donc, sur cette première scène de smut, ok, il y a des moments où t'es un peu là, genre, ok, pourquoi elle fait ce genre de référence à ce moment-là? Mais ok, en fait, ça fait partie de sa personnalité, donc. Ça m'a pas dérangé outre mesure, c'est juste que ça se voit pas beaucoup. Et même, j'ai presque trouvé sympa que ça reste naturel et que ce soit pas finalement tant romancé que ça, tu vois. Et, ça fait évidemment quelques petits détails, mais bon, ça c'est. Et le problème, ce qui m'a posé problème, c'est qu'on est comme ça un petit peu dans le naturel et qu'en même temps, on retombe quand même dans les clichés de j'ai un gros zizi et il est serré. Niquez vos mères. Putain de bordel de chibre.
Ouais, tout à fait.
C'est
Ces
pas possible.
stéréotypes-là,
Alors qu'en plus, on
ils
a
sont à
une
dépasser,
héroïne
bah
qui
oui.
est ronde, qui a des formes, et il y a un effort considérable pour faire en sorte que, ben, pour montrer que ça ne change absolument rien au récit, j'ai trouvé en plus le traitement hyper cool parce que on pourrait lui reprocher ou ça pourrait être un levier justement pour dévaloriser l'héroïne et c'est absolument pas là-dessus qu'on joue et j'ai trouvé ça super bien fait. Et là, on nous rajoute, regarde, c'est une grosse bite, ça me saoule, ça me saoule. Et puis après, le moindre prétexte
Ouais.
à une scène de Matt devient une scène de Matt. Et je suis désolée, mais les gars, vous êtes censés sauver l'univers et tu pars coucher dans les bois. Ça n'a aucun sens. Je suis désolée, mais ça n'a aucun sens. Et en plus, le pire, c'est que du coup, c'est des scènes de smut qui sont grandes d'un paragraphe. Ça veut dire que tu l'enlèves, tu vois aucune différence. Et après, en plus, ces scènes-là, elles étaient vraiment mauvaises pour le coup.
Mais c'est vrai qu'il y a Il y a un peu deux types, il y a un peu deux teams quand il s'agit d'écrire le smut. Et alors moi, je sais vers où ma préférence va, c'est quand il y a peut-être deux scènes dans toute l'histoire. Souvent, ça tourne un peu autour de ça. Et elles sont écrites, ça dure un chapitre, et elles sont vraiment écrites du début à la fin assez bien. Et entre, ben, tu peux avoir des scènes intimes, romantiques, mais qui ne vont pas s'axer autour de quelque chose d'érotique. Plutôt intime dans la confidence, voilà, d'essayer de dépeindre un peu d'autres types d'intimité que simplement le cul. Alors que, effectivement, après, il y a d'autres types de. Il y a une autre team qui est, pendant une bonne partie du bouquin, il n'y a rien, ou quasi rien, et d'un coup, il se passe tout. Et Witch's Guide to Fate Dating a Demon, elle
C'est
tombe un petit
clairement
peu
celui-là.
dans l'autre cliché, c'est-à-dire que pendant vraiment très longtemps, il y a vraiment rien, à part des pensées déjà que je trouvais déjà un peu agaçantes de mais pourquoi est-ce qu'il me défend? Est-ce qu'il serait un peu attiré par moi quelque part? Mais non, ça n'est pas possible. En fait, déjà, quand t'as un peu suite de réflexion, quand c'est une ou deux fois, ça va, mais là, c'était vraiment, enfin,
C'était très répétitif.
très répétitif. Et puis, t'étais là, on a tous compris que, enfin, en fait, ça donne un peu l'impression que l'autrice, elle arrive, enfin, que c'est la parole de l'autrice qui vient nous dire. Si jamais, là, ils sont attirés l'un par l'autre, et t'es là, on le sait, parce que c'est le principe même de ton livre,
Écrit dans
on avait tous compris que ça
le
allait aller vers ça. Pas besoin de grands sabots.
Ça me rend dingue.
Voilà.
Et il y a un autre truc qui met bien en lumière enfin, tous ces problèmes-là. Et du coup, on va revenir à notre sujet de fanfiction dans cette première scène. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le personnage de Marielle, c'est un personnage qui se pose toujours beaucoup de questions et qui passe du coq à l'âne. Et à un moment dans la scène de Smut, elle demande au gars si. Parce que comme c'est un démon, on ne connaît pas trop, tu vois, les corps d'autrui et tout. Du coup, elle pose une question de... Bref, je ne vais pas vous faire un dessin, mais d'une pratique qui se retrouve beaucoup en fanfiction. Évidemment, le type ne comprend pas. Bref, on passe à autre chose. Ceux qui lisent de la fanfiction vont reconnaître le truc. Je crois qu'il y a même une note de bas de page pour nous expliquer ce que c'est, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et quand tu arrives au remerciement à la fin du livre, bon, déjà, ça te met la puce à l'oreille. Parce que quelqu'un qui lit... Pas de fanfiction ou peu de fanfiction, n'a aucune idée de ce que c'est. Surtout si en plus on lit pas des fanfictions de cul. Il y a des fanfictions, c'est que du. C'est pas une généralité, mais voilà, il y a vraiment une branche, une niche, avec toutes les créatures. D'où la référence. Et à la fin, dans les remerciements, on comprend que l'autrice a commencé à écrire en faisant de la fanfiction, sûrement de cul.
Et
Ceci
alors, mon Dieu,
explique
j'ai pas du tout
cela.
envie d'aller lire ces fanfictions de cul parce qu'elle sait pas très bien l'écrire. Pour le coup, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'héros. Enfin, le but d'une scène de fanfiction, moi je suis désolée, mais même dans un livre où le propos est humoristique, le but d'une scène de smut, c'est l'érotisme. Et en fait, si tu sors de ça, eh ben c'est plus une scène de smut réussie parce que c'est ça que t'attends d'une scène de cul. Et en fait, si tu ne l'écris et si ton but c'est de rester pleinement dans l'humour, pour moi, il faut l'éluder la scène de sexe. Il faut donner l'impression qu'elle va se produire,
Ou
créer
qu'elle va
le quiproquo,
commencer.
mais tu ne peux pas commencer à l'expliquer d'une façon explicite comme ça si ton but, ça n'est pas un peu d'érotisme. C'est le seul intérêt de ces scènes-là. Sinon, autant les éluder. Il y a d'ailleurs plein de romances très réussies qui éludent totalement ces scènes-là. Il n'y a absolument pas besoin qu'elles existent dans un livre pour que ce soit une romance réussie.
En plus, si t'enlèves ces scènes de ce mode-là, c'est même pas une bonne romance.
Ouais.
En fait.
Ben c'est ça le problème d'ailleurs. Mais ça, c'est ce que pour moi, le gros problème du livre, c'est qu'effectivement, toute la première partie m'a fait sincèrement rire et j'ai trouvé l'humour vraiment réussi. Mais il y a un moment où quand les scènes de Smut commencent d'ailleurs à peu près, mais où en fait, ben, tu sens que le ressort humoristique il s'est essoufflé parce qu'elle utilise quand même, mine de rien, beaucoup le même. Donc au bout d'un moment, ben, ça te fait moins rire parce que tu commences à l'avoir bien compris. Et là, pour moi, la romance devrait prendre le relais. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement d'alchimie entre eux, qu'en fait, à part l'autrice qui est venue avec des gros sabots nous dire « Vous avez vu? Il s'aime !» Et puis d'ailleurs, pour moi...
C'est tout le truc autour de son cœur, ça me rend dingue.
Franchement.
C'est souffler.
Et quand, pour moi, quand dans la scène de Smut, en fait, c'est ça qui m'a définitivement dit « Non, là, ça me saoule. » Quand dans la scène de Smut, elle parle de fanfiction, pour moi, il y avait l'autrice qui venait nous dire « Et moi, j'aime la fanfiction, si jamais !» Et ça, j'étais là... Bah, du coup, pour moi, on sortait de la protagoniste, il y avait un peu l'autrice qui s'insérait dans l'histoire, et c'était fait. Et ça arrive souvent que des autrices s'insèrent d'une façon ou d'autre dans les histoires, ou avec des protas qui leur ressemblent beaucoup, Sarah Gimas... On voit ce que tu fais. Mais il faut que ça reste un peu discret. Là, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment arrivé un peu avec des gros sabots et me dire si jamais je me reconnais beaucoup dans le personnage de Marie-Belle.
Surtout bon. Avec cette note de bas de page. Où... Enfin, attendez. Je sais pas si on se rend compte quand même. On a une note de bas de page dans une scène de Smut. Allô. C'est un petit peu problématique. Parce que la scène de Smut, c'est justement celle où t'as pas envie de regarder les bas de page. Hein.
Oui, oui. Alors pour moi, elle aurait bénéficié cette histoire d'éluder les scènes, parce que je pense que c'était pas le genre de histoire dans lesquelles on a nécessairement besoin et envie de retrouver du Smut, mais plutôt sur un ton justement caustique, humoristique, rigolo, c'était tout à fait ok de les éluder.
Et puis ça aurait trop bien marché en young adult.
Oui, et peut-être même que la romance aurait été... Parce que pour moi, la romance, elle se délite vraiment dans ces scènes-là où, en fait, leur alchimie, elle est proche du néant. Du coup, t'es un peu là, genre, ben, ça a pas l'air ouf quand vous couchez ensemble. Quoi.
Bah, en fait, c'est... lui, je peux comprendre pourquoi... Lui, on voit un peu quand même une progression, non, parce que le chapitre 1, ils sont déjà... Mais bon, bref. Mais je comprends mieux, lui, ce qu'il peut lui trouver à elle que l'inverse. Et c'est pour moi, ça aussi, c'est vraiment ce qui fait que la romance, elle ne fonctionne pas. Parce que lui, ça implique beaucoup de choses d'être amoureux. Elle, ça fait vraiment, il n'y a pas aucun enjeu de ce côté-là pour elle. Et du coup, ça rend la romance très plate. Et du coup, ben, pour elle, ça tourne aussi quand même du coup, autour du sexe. Mais du coup, t'enlèves le sexe, il n'y a plus rien.
Bah, le problème, c'est que du coup, même le sexe, ça a pas l'air... Il donne pas très envie. Mais en fait, de nouveau, le problème, c'est que quand tu reviens vers des clichés, en fait, faut pas oublier que toutes ces romances-là, c'est des publics quasiment exclusivement féminins. Malheureusement, parce que je pense que les hommes apprendraient beaucoup de choses s'ils s'intéressaient un peu aux romances. Et à tout cet univers
là. Big up à tous les mecs qui lisent du Smut. On vous aime.
Jure.
Vous êtes dans nos cocoros.
On voit la diff.
C'est clair qu'on voit la diff.
Mais en fait, du coup, quand on reste dans une norme trop hétérocentrée, ben, moi, on me perd parce que je trouve que ces pratiques-là sont pas les plus plaisantes pour la plupart. Et du coup, j'ai de la peine à trouver la scène attirante. Alors, par exemple, dans les autrices de Smut, et pour moi d'ailleurs, je pense que ça fait une partie de leur succès, objectivement, dans les autrices de Smut qui, je trouve, écrivent de l'excellent Smut, ou en tout cas des scènes qui sont chouettes au niveau du consentement, qui sont bien écrites et qui donnent... Enfin, où tu te dis, ben, là, ils ont objectivement l'air de tous passer un très bon moment, et où je trouve que leur... but dans l'histoire est quand même importante, enfin, où je trouve que ça a du sens que les scènes soient décrites. On a par exemple Rebecca Yarros qui écrit de l'excellent Smut et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Force Wings fonctionne si bien. On a Sarah Gimas, on va pas le lui enlever, elle écrit du très bon, en tout cas de ce que j'ai lu d'elle en termes d'écriture de Smut, je trouve que c'est toujours assez bien dosé, que les scènes sont... Alors, sauf peut-être le cinquième tome pour le coup d'Akota, où je trouve que là, elle a un peu moins bien dosé. Mais en même temps,
là,
ça pouvait servir un propos dans l'histoire.
Parce que les personnages sont différents aussi. Donc moi, ça m'a pas choquée.
Ça pouvait servir un propos dans l'histoire, que ce soit un peu plus omniprésent qu'avec les autres. que quand on suivait d'autres personnages. On va voir si elle continue un peu dans la tangente d'en mettre trop sur Azriel, ou je crois que ça aurait beaucoup moins de sens.
On a, je suis désolée, mais elle nous a donné des indices avec Azriel, mec. Je t'y attends vraiment. Je suis désolée, mais on va
J'ai
finir
peur.
traumatisée. Moi, je vous jure, je suis déjà excitée d'avance.
Moi, je suis terrifiée. Mais bon, voilà, Sarah Gimas. À qui d'autre on peut penser? Bon, Jennifer et l'Armand Trout, son problème, c'est que par
C'est toutes les mêmes,
contre,
hein.
c'est toutes les mêmes et que au niveau dosage,
Il y a un moment donné aussi où il n'y a juste plus rien à écrire,
Mais
peut-être.
moi j'ai l'impression que Jennifer et l'Armand Trout, elle écrit des excellents tomes 1 et qu'après elle pète un peu un câble. Moi c'est mon avis sur Jennifer et l'Armand Trout. Dites-moi si c'est un avis subversif, mais moi j'ai l'impression qu'elle a une super idée et qu'après elle est la jambe. Et si je rajoutais tous ces pouvoirs-là et que je rendais l'histoire totalement inextricable?
J'ai pas encore continué, j'attends toujours mon plan A3. Depuis le tome 1, non, depuis le tome 2, on utilise un plan A3 et on attend, on attend, on attend. Je sais pas, arrête de nous teaser, mais le nouche, change un peu tes habitudes, je comprends ta peur, je comprends. Mais vas-y, j'en ai marre d'avoir toujours la même scène de sexe avec un prota nul.
Qui d'autre écrit du bon smut? Bah franchement, Orla.
Ouais, c'est
Et
bien.
d'ailleurs, sur la romance plus contemporaine, STEM, moi je trouve, alors je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est trop omniprésent dans les romances d'Ali Hazelwood, moi je trouve que par contre, en termes de consentement, on a rarement fait mieux qu'elle. Je trouve vraiment qu'elle écrit des protas qui ont vraiment compris ce que c'était le consentement de A à Z et pas juste je te demande l'autorisation avant de t'embrasser et après je te demande plus jamais ton avis. C'est vraiment des personnages qui s'assurent régulièrement du consentement de leur partenaire et c'est tout écrit d'une façon ultra romantique, ultra. Enfin, c'est pas du tout. Comment on peut dire c'est pas du tout repoussoir. Et ça, c'est vraiment une vraie compétence parce que où je trouve que on veut nous donner des fois un peu le gage du consentement, mais on sent que c'est pas encore pleinement intégré. Et puis bon, c'est récent toutes les questions du consentement, donc c'est normal que ce soit encore des fois un peu ballant. Mais avec Ali Hazelwood, moi je trouve qu'il y a une vraie compétence et on sent une vraie envie de nous parler des questions d'égalité de genre et entre autres dans le consentement, mais pas que. Si vous
Alors,
voulez de la romance féministe,
pour la question
Ali
du
Hazelwood.
consentement, le meilleur book boyfriend, c'est Art. Hey, j'essaye, on y reviendra. Vous en... Cupidon m'a brisé mon cœur avec ce perso.
On arrive plus tard dans ce
Vous en
podcast
faites pas.
avec les questions de la balade funèbre de Art and Mercy.
Mais voilà, le smut dans les bouquins, pour certains, il y en a trop, pour certains, il n'y en a pas assez. Pour certains, c'est trop. Pour certains, ça l'est pas assez non plus. On trouvera un bon
Après, de
équilibre.
nouveau, on kink-shame pas et
Non,
on a le
King
droit
Shaming.
d'avoir
Les
des
kings,
préférences.
c'est encore autre chose.
Voilà, moi c'était vraiment, là c'était plutôt de dire, en
C'est
fait,
mauvais
le
parce que
smut
c'est
mal
pas
écrit,
bien écrit.
voilà. Et que du coup, c'est une vraie, moi c'était ça
C'est
aussi
une
que je trouvais important,
compétence.
c'est une vraie compétence
Ouais,
d'écrire
de
le
fou.
smut. Et il faut pas la dévaluer juste sous prétexte que c'est de l'érotisme et que du coup, bah forcément, c'est un peu dévalué dans la représentation qu'on s'en fait parce que, en fait, c'est pas si facile d'écrire une scène de smut à la fois
Faire monter
attirante, faire
l'attention,
monter l'attention, au bon moment, trouver une longueur qui est un peu acceptable, que ce soit pas trop long, pas trop court non plus, rester fidèle au personnage. C'est pas si évident que ça.
pas tomber dans les clichés.
Ou pas trop, parce que de nouveau, des clichés, il peut y en avoir, mais en fait, dès que ça devient ultra. Enfin, en fait, dès que
Quand tu peux
tu fais le
deviner le
bingo,
prochain
dès que.
move
Ouais,
du
ça,
titre, c'est
c'est.
bon, on a compris quoi.
Ouais. Donc, dommage. Ça aurait été une super chouette lecture si on
Mais
était resté sur le côté un peu rigoloso de
franchement,
l'histoire.
toute la première partie, je me suis dit, mais ça va être un coup de cœur.
Ouais.
Et.
Et point, 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 point,
Et pas
point,
tant. Moi,
point. Vous aimez quand je fais des bruits?
je vais t'enregistrer, je vais les utiliser.
Aïe aïe aïe! Bon, et puis du coup, dans nos up and down qui ne sont plus des up and
Qui
down,
sont
on
juste des
avait un
downs.
deuxième sujet.
Tout à fait. C'est les gens qui ne reconnaissent pas. C'est les lectorices qui ne reconnaissent pas. Le love interest des livres qu'ils lisent. Parce que, franchement, pour moi, ça, c'est la plus grosse incohérence des retours que j'ai vus sur The Wind Weaver, qui est, c'est réchauffé, et en même temps, ça reconnaît pas que le prota n'est pas le love interest. Comment tu peux dire que c'est réchauffé si tu reconnais pas le plus gros twist de l'univers utilisé dans toutes les romantaisies classiques?
Mais dans le pan de l'incapacité de reconnaître le vrai love interest, on a eu en un et on l'a vu. On l'a vu, c'était drôle, fut un temps. Les gens qui ont commencé Court of Thorns.
C'est son tatou, le prénom de tampon sur le bras.
Alors que quand même, alors. que ça m'aide pas, que ce soit pas instantané, qu'on comprenne que le premier prota masculin qu'on nous introduit n'est pas la personne avec qui la prota puisse terminer, c'est complètement compréhensible. Mais par contre, que dans le déroulé du livre, à un moment donné, on se dise pas, là, le prota, il est chelou.
C'est bizarre, il est pas très respectueux. Tiens, c'est bizarre, il a détruit tout son château, tout seul. Parce qu'il était en colère. Bon.
Et effectivement, dans The Windweaver, on retrouve le même ressort. Et j'ai vu effectivement passer beaucoup de chroniques qui, du coup, n'aiment pas le prota. Et
le love interest.
Du coup, se désintéressent de l'histoire. Ce qui est fort dommage. Parce que je trouve quand même que Windweaver, en plus, les gros sabots sont pris quasiment dès le début de l'histoire. Oh, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'actions dès le début de l'histoire qui sont un peu impardonnables. Et du coup, on sent bien... Comme c'est labellisé romantasy en gros, donc pas dark fantasy, pas dark romance, donc on sait qu'on est sur une romance qui est supposée être au moins une romance un peu consensuelle, respectueuse. Je trouve qu'on ne peut pas avoir un prota qui donne l'impression d'être amoureux de l'ancien Windweaver vachement plus que du récent Windweaver. À partir du moment où t'as ce petit incohérence là, pour moi tu te doutes bien que là, l'autre type très sympathique qui lui tourne autour, c'est probablement lui, en fait finalement le personnage intéressant
fait,
de l'histoire.
Quand les protas tirent vers le bas la prota, c'est que c'est pas des love in... N'en déplaise à Campus Driver. Non, ça c'est un autre problème qui influence beaucoup trop. C'est trop plat en fait finalement, parce que c'est même une trope. Le, comment on peut appeler ça? Ça n'a pas de nom,
le
mais...
Shift.
Ouais, le shift. Love in...
je sais pas si c'est un... Dites-nous en commentaire si c'est un nom officiel en termes de trope.
Comment on dit déception?
Il pourrait y avoir le triangle amoureux, j'imagine.
Non... Bah, ils sont pas amoureux, tu vois, c'est juste que ça...
Bah ouais. En vrai, déception. Elle a l'impression d'être amoureuse. Et souvent, les triangles amoureux, c'est d'ailleurs un peu basé là-dessus.
Oui.
C'est que d'abord, le premier, elle a l'impression qu'elle est très amoureuse de lui, qu'il est très sympa, mais en même temps, il fait 2-3 trucs qui sont un peu déplaisants. Et puis finalement, après, le vrai love interest arrive.
Un truc absolument affreux.
Voilà. Ou plusieurs, ou tout du long.
En fait, je suis en train de me rendre compte que j'adore les triangles.
Je pense que c'est ça,
ouais,
le
c'est
truc que
truc,
tu
en fait.
Kiffes bien.
Parce qu'elle a assoiffé et tout, de nouveau, c'est pareil en fait. Hein.
Parce que bon. Si jamais, moi j'en ai rien à foutre du balance, Laurie, avant qu'on commence ce podcast, a passé 20 minutes à m'expliquer le pitch de... Beaucoup trop comme une fangirl. Ce qu'on lui pardonnerait si elle avait encore 18 ans. Mais notre grand...
11 ans de plus. Écoute... Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour ma défense.
Donc oui, en fait, le trope, effectivement, c'est le triangle amoureux.
Oui.
Mais
oui,
du coup, c'est quand même... Alors, est-ce que c'est parce que ça se fait quand même vraiment moins en ce moment?
En fait, c'est différent parce que c'est pas... Enfin, parce qu'en fait, il y a cette notion de temps qui fait que les deux protas masculins sont pas nécessairement amoureux ou pleinement amoureux en même temps. Tu sais, il y a quand même cette notion de...
Bah, disons plutôt, il y a cette...
Presque de friends to lovers, en fait, d'un côté.
Pas vraiment, parce que pour moi, Soren, il est une love de elle, minute 1.
Ah, je suis...
Mais
ça
bien
débat.
Sûr.
Ça se débat.
Il lui a offert un livre,
ça
il s'est...
Non,
ça veut dire qu'elle était en train de pioncer,
bah,
comme
il
ça.
Il veut l'aider.
En face de lui, elle était
d'ailleurs,
là,
je pense que c'est
joli,
dans ses
et
rêves.
Il était en train de dormir, elle était en train de dormir pendant 3 jours, et lui, il était assis à côté d'elle. Il a pris un livre, et il a écrit tout plein de blagues à son attention. Il lui a donné le livre et elle est repartie avec.
Parce qu'il a très bien vu qu'elle n'utilisait pas ses pouvoirs comme il faut, donc il savait qu'il allait en avoir besoin. En plus, il savait aussi où est-ce qu'elle allait retourner.
Mais il pouvait juste
lui filer
le bouquin, il n'était pas obligé de mettre des notes en bas de page. Hein. Il a annoté tout un bouquin pour le lui donner, tu vas pas me faire croire. Si ça, c'est pas le langage de l'amour, moi j'y connais plus rien en amour.
Je sais pas, ça peut être une bonne personne aussi. Les mecs sont pas obligés d'être amoureux pour être sympas, ok? Notez-le. Tatouez-le vous, même.
Non, mais pour moi, clairement, d'ailleurs, quand il se revoit, c'est l'interaction suivante. Pour moi, il est blessé de l'avoir.
Ouais.
Parce que l'interaction suivante, il est... Alors, vraiment, avancez un petit peu, si vous voulez pas de spoil. Nous allons spoiler The Windweaver. Nous avons déjà commencé. Hein. De toute façon, c'est pas un podcast qui s'écoute si on veut pas de spoil. Pour moi, quand il la revoit plus tard et qu'elle est en train de pécho peine au KLM et que lui, il déboule pour leur sauver les miches, il passe pas un très bon moment quand il déboule et qu'il se rend compte qu'ils sont en train de... Il est un peu jaloux. Et ça, c'est l'interaction suivante.
Oui.
C'est bien déjà qu'il s'est passé quelque chose avant.
Okay.
Pour moi... Un peu, moi, la façon dont j'interprète ce premier tome, c'est que Pen, il est amoureux de l'ancienne Windweaver, qui, comme de par hasard, est décrite comme quelqu'un de très soumis, de très peureuse,
Quand il lui
de
dit, oh mon Dieu, quand il lui
toute
dit,
douce.
tu non, t'as rien à voir avec, parce qu'elle lui balance en pleine gueule que comment elle s'appelle, Enid, c'est pas du tout elle, enfin, elles ont plus rien, elles ont rien à voir, que c'est pas elle. Et lui il lui répond, oui je sais, parce que justement t'es pas, en plus il utilise le mot soumise, hein, il sort pas de n'importe quoi, soumise, douce, fragile, tout ça. Et vraiment quand il lui balance ça, j'ai eu tellement envie de vomir, oh mon Dieu. Et donc les gars, comment vous faites pour vous imaginer que ce genre de protas vont rester des protas de Love Interest, en fait? Non! C'est justement une épreuve à surmonter de l'héroïne. Ça fait partie du développement de l'héroïne, justement. Comme Tamlin avec Fer et comme... Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les ai pas en tête. Mais...
En fait, pas tant. J'y
Oui,
réfléchis,
en
mais j'ai
fait,
pas
pas
tellement
tant.
d'autres exemples.
Mais parce qu'en fait, tu vois, c'est ça, c'est ce trope-là que je veux dire. C'est pas le triangle amoureux, mais tu en as un des deux où... Tu sais, la désillusion, quoi, parce que t'as projeté un prince charmant sur un type, et en fait, non, c'est pas.
Un pack,
Tu
le
vois?
pack des roses est un petit peu comme ça aussi.
Et en fait, c'est pas si
Mais tu le
répandu.
vois un
Et
peu plus venir peut-être dans le pack
c'est pour
des
ça que
roses.
je ne comprends pas les gens qui parlent de réchauffer en parlant de The Wind Weaver, parce que, en vrai, les gars, ah, pardon, j'arrive pas à en trouver un autre.
Oui, et le seul parallèle avec Akotar qu'on peut faire, c'est vraiment cette ambiguïté-là au niveau de la relation,
Ouais,
parce que
parce que le
tout
reste,
le
rien à voir.
reste, le système de magie, les tempéraments de protagonistes, et même finalement bon, oui, le conflit entre elle et Pen va être considérablement le même, c'est-à-dire ne pas la laisser s'émanciper pendant qu'il y en a un autre qui va le faire. Mais hors de ça, en fait, les pouvoirs, le système de magie, et même l'enjeu, enfin les conflits entre les royaumes sont pas du tout les
Rien à
mêmes. Il n'y a
voir.
pas
Rien à voir.
l'histoire est
Là, il y a
foncièrement
une
ultra
prophétie déjà, les gars.
différente.
Donc,
Bah oui, c'est
en
ça.
fait, on
C'est
sait où on va.
juste cette façon d'introduire un personnage masculin qui ne va pas être le bon. Mais même que je trouve que dans Court of Thorns and Roses, c'est même fait assez différemment en fait.
Oui, bah, ça prend 3 livres
Ouais, c'est
dans
ça.
Akotar, ici.
Là, a priori, déjà dans le suivant,
S'il
hein,
vous plaît,
c'est
je vous
une
en
repo.
supplie,
Et d'ailleurs,
je
je crois que c'est
pleure.
une duologie. Donc, je crois que le deuxième va
C'est pas une
clore
trilogie?
l'histoire.
J'ai cru voir que
Je crois
c'était
que
une
c'est
trilogie.
une
Ok, non, si c'est une
duologie.
duologie, ça me va.
Et c'est pour ça
Ça me va.
que c'est une duologie. Le premier s'appelle The Wind Weaver et le deuxième s'appelle The Sea Spinner. J'étais vraiment là, genre, aucun doute. C'est
Incroyable.
acté que le prota qui nous intéresse, ça va. Soren n'est pas peine.
Et en plus, j'ai été vachement surprise. Il y a des morts. Mon cœur, je vous jure, mon cœur. Moi,
Ouais.
franchement, je comprends pas les retours sur ce livre.
Non, franchement, il est très bon. C'est vrai que j'ai pas compris non plus pourquoi il a pas bénéficié du même engouement.
Alors qu'on aurait pu lui reprocher sa traduction mezzo mezzo, parce que les traducteurs, alors je sais pas si on a eu plusieurs, et du coup c'est peut-être pour ça qu'il y a des incohérences, mais genre typiquement, ils se sont pas mis d'accord déjà sur la carte, s'ils la traduisaient ou pas. Ce qui fait que des fois t'as des termes qui sont traduits, des fois t'as des termes qui sont pas traduits, et du coup dans le texte, des fois ça t'arrive avec 2 termes qui sont en fait le même. Mais c'est juste que t'as le terme en anglais et en français, sauf qu'en fait du coup ça désigne exactement le même endroit.
J'ai même pas remarqué ça.
Moi, j'ai parce qu'après, je pense que comme je suis toute la journée aussi en anglais, comme je travaille, mes collègues, ils sont anglophones, etc. Je pense que du coup, c'est des trucs que je vois tout de suite, quoi. Mais parce qu'en fait, l'énonce, à un moment, elle fait une liste d'endroits justement par où la menace, elle passe, ou je sais pas quoi, ou par où ils doivent passer. Et justement, ils parlent de Terre du Nord.
Oui.
Ils parlent de Terre du Nord, et très souvent, ils disent Terre du Nord. Et à un moment, ils mettent en anglais, North, je sais plus quoi, Northland.
Ah.
Sauf que Northland n'est marqué nulle part ailleurs. Et ça,
Ça, normalement,
c'est
j'ai pas
pas
dû
du tout sûr.
voir. Je
Mais
sais
tu sais,
pas si
c'est
j'aurais
dans la liste,
remarqué,
donc en
mais ouais,
fait.
c'est ça.
Et puis c'est pareil, à un moment, ils disent oui, les Northlanders, virgule, les gens qui vivent au nord. Bah oui, mais n'utilisez pas Northlander, en fait, les gars. Parce que même si en anglais, elle l'explique vraiment, c'est les gens qui habitent au nord, nous, on s'en fout, parce que de toute manière, on n'utilisera jamais Northland. Mais ceci dit, le travail de traducteur est très compliqué, donc ne leur crachez pas trop dessus.
Et pour le coup, j'ai trouvé que, bon, ces petites incohérences mises à
Voilà.
part, que par contre, on a travaillé la plume pour que ce soit pas désagréable. Moi, souvent, ce que je reproche à une traduction anglaise à français, c'est que souvent, il y a des expressions, des façons de parler qui sont très typiques de l'anglais, mais qui fonctionnent très mal en français. Je prends un exemple typique, mais le mot fuck qui ne signifie pas la même chose que putain, en
Bah
fait,
oui.
qui est utilisé dans plein d'autres contextes que putain en français, qui serait la traduction littérale, mais du coup qui fonctionne pas toujours. Et le problème, c'est que où on veut pas mettre putain, et du coup on trouve un
Bah
mot
non, mais en
absurde
fait,
et que personne n'utilise jamais en français
l'équivalent
pour
de fuck
l'utiliser.
en français, c'est nique.
Oui, mais ça marche pas non plus.
On s'en fout. Utilisons-le et ça marchera.
Pas toujours, je pense.
Nique, nique. Niquez-vous. Vous voyez, ça marche. Moi, je l'utilise souvent.
Mais je pense vraiment, parce que y a aussi. Enfin, je
Mais,
pense que
bref,
ça. Ouais, bref.
on a pléthore de mots vulgaires obligés d'utiliser, putain.
L'idée, c'est des fois de regarder un peu l'ambiance de la scène et d'essayer de trouver un mot qui s'adapte plutôt que d'aller traduire très littéralement et du coup mettre juste si putain et ça marche pas très bien parce que on utilise
Surtout, on parle
pas
pas comme ça.
autant ce mot-là en français qu'il n'est utilisé en anglais. Du coup, ça fonctionne moins bien et ça fait des trucs un peu bizarres et désagréables à lire parce que tu te dis. En fait, quand tu vois le travail de traduction, c'est désagréable. Et alors, dans The Wind Weaver, moi j'ai trouvé que pour le coup, tout était assez bien traduit, que la plume elle était assez agréable. Et je crois qu'ils ont sorti, combiné en anglais et en français le livre. Du coup, il y a eu un travail de traduction qui a dû se faire quand même très vite. Et je trouve que pour le coup, c'est un travail qui a été fait très vite et que j'ai trouvé quali.
Sauf pour les incohérences, du coup,
Voilà,
je
mais
disais tout à
c'est que
l'heure.
j'avais pas du
Mais
tout
sinon,
relevé. Mais.
je suis assez d'accord. Mais c'est un truc que j'ai pas mal remarqué parce que c'est de nouveau Hugo, l'éditeur. Et il y a beaucoup de points communs sur les erreurs entre The Wind Weaver et Force Wing. Et ça m'étonne pas, du coup, que justement, ils mettent énormément de pression en termes de timing et de temps sur les traducteurs. Et du coup, forcément, déjà de base, on est des humains, donc on fait des erreurs, ça c'est évident. Mais si en plus tu as des contraintes de temps, type il faut sortir en même temps que. Enfin, c'est des simul release, bon bah voilà, forcément tu vas te retrouver avec des erreurs, tu peux pas faire autrement quoi.
Bah surtout si du coup il y a plusieurs traducteurs qui ont travaillé sur le même
Ouais,
projet, bah c'est
t'imagines le
compliqué
taf?
parce qu'il faut tu peux pas t'accorder
Enfin.
sur tout, c'est pas possible, il y a forcément des choses qui vont passer à la
C'est
trappe et
ça.
qui vont
Mais
avoir
des
l'air
termes.
désaccordés du
C'est
coup.
ça. Et des termes, du coup, bah typiquement, au début du livre, on parle de Northlander, après on le voit plus jamais. Du coup, c'est juste ça. Mais en vrai, quand on lit et quand on n'est pas bilingue, je vous verrai pas la différence. Si vous connaissez rien à l'anglais, vous allez rien voir du tout. Donc, c'est pour ça, hein, ça marche et c'est vraiment du détail.
Donc, The Wind Weaver, franchement, sous-côté.
Franchement, mais c'est même pas sous-coté, c'est mal noté. Je suis déçue.
Et il y a le réveil qui a sonné, donc nous
Ouais.
allons passer au
Coparoco.
Rocco
Just
On se demande tous bien ce que ça pourrait être. Je crois que ça commence par Art et ça finit par Merci.
c'est la balade funèbre de Hart et Merci que j'ai découvert totalement par hasard. Vraiment, totalement par hasard. Je rentrais de Lyon, j'étais dans mon train, je suis passée à Payot parce que j'avais passé une journée de merde. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter quelques livres. Je me suis dit, je vais acheter un livre et je me suis acheté quelques livres. C'était ça la vérité. Et j'ai vu ce joli petit, vraiment petit bouquin, tout mignon, super jolie édition chez Milady, La Ballade funèbre de Art et Mercy. Je me suis dit, et ça, pour mon challenge Halloween, ça passe de ouf. Ça parle d'un ranger qui tue des zombies et d'une croque-mort. Let's go! Oh les gars, si vous saviez ce qui vous attend. Ah, c'est absolument génial! C'est absolument génial! Ils se détestent, mais quand je vous dis qu'ils se détestent, il y a une alchimie de la détestation qui est absolument exquise. On adore qu'ils se détestent, vraiment. Et là, notre petit Art, qui finalement est quelqu'un de très solitaire et qui cache un petit peu que ça lui plaît pas trop, eh ben, il décide comme ça, sur un coup de tête, sur l'énervement, d'écrire une lettre à personne, enfin à personne, à un ami. Donc, pas d'adresse, rien du tout. Il le met dans la boîte aux lettres en mode ça arrivera chez quelqu'un, ça arrive chez quelqu'un, j'ai pas de réponse, tant pis. Mais vraiment juste, c'est un peu comme quand on écrit dans un journal intime finalement. J'écris une lettre, je suis vénère, je l'envoie parce que voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Et advienne que pourra, anyway, c'est juste pour se décharger quoi. Et un jour, il reçoit une réponse. Sauf que c'est qui a envoyé la réponse? Eh ben c'est merci! Ils se détestent! Vous voyez là déjà le petit enjeu un petit peu sympa? C'est qu'ils se détestent, mais en lettres, ils vont devenir super copains!
Ça me fait penser à Divine Rivality.
Et du coup, ils n'ont aucune idée de que ce sont eux. Ils sont vraiment. Ils pensent que c'est des personnes totalement différentes. Et donc, il y a tout ça qui se passe. Et derrière, il y a aussi d'autres choses qui se passent dans l'univers, qui est hyper original pour le coup, parce que c'est vraiment un univers où il y a des zombies. Mais c'est pas des zombies bizarres, c'est des zombies magiques en fait. Et en gros, l'âme des gens qui n'arrivent pas à rejoindre l'au-delà se réincarne en fait, prend possession de cadavres et du coup reviennent à la vie. Et donc c'est le boulot des rangers justement de les tenir éloignés des villes quoi en gros. Et il y a tout un twist derrière qui est franchement trop bien. Et les gars, par contre, si vous aimez pas pleurer, il faut pas lire le livre. Je vous dis tout de suite si vous aimez pas chialer, parce que j'ai trop pleuré.
C'est un stand-alone, il a des tomes compagnons.
Alors, il aura des tomes compagnons. Je sais qu'en anglais, il en a deux, sur deux autres couples. Mais c'est un one-shot, donc vous pouvez le lire tout seul. Il n'y a pas de problème. Je lirai sûrement les autres. Et la plume, j'ai trop adoré la plume.
Okay.
La plume est chouette.
L'autrice, c'est Megan Bannon, si jamais.
Les éditions Milady, vraiment incroyable. C'est mon seul livre Milady.
Pourtant, en vrai, il y a pas mal de trucs qui donnent assez envie chez eux.
Mais je suis jamais, tu sais, en librairie, je tombe très peu dessus, en fait.
C'est vrai que c'est peut-être pas la maison d'édition la plus... Milady, c'est un
Je sais pas du tout, j'ai pas regardé.
Il me semble qu'il appartient à Bragelon, parce que quand ils font leurs appels à service de presse, je sais qu'il y a genre Milady et d'autres... J'ai vu genre l'appel à service de presse de l'année dernière de Bragelon. Il y avait plusieurs sous-maisons d'édition, enfin je sais pas trop comment ça se dit.
Il y a peut-être des lignes éditoriales.
Oui, c'est ça, avec des lignes éditoriales différentes. Et il me semble que j'avais Milady dedans. Du coup, et possiblement Bookmark, c'est possible
Non, Bookmark, je crois que c'est autre chose. Je ne sais. Non, je crois que Bookmark.
En tout cas, Milady, j'en suis sûre. Du coup, est-ce qu'ils font des appels à service de presse ensemble ou est-ce que c'est une ligne éditoriale plus. Une sous-ligne éditoriale de Bragelon. Dites-nous en commentaire si vous le savez.
Mais ouais, voilà.
Et on fera nos petites recherches et on vous dira le mois prochain. Moi, je vais vous recommander ce qui probablement sera un de mes coups de cœur finaux quand je ferai le tri de mes meilleures lectures de l'année. C'est La mémoire des eaux de Margot Lawton. Donc déjà, de la fantasy française, hyper cool. Il faut qu'on aille lire plus de fantasy française. Nos pauvres auteurs de fantasy française galèrent de ouf.
On pourra faire un épisode spécial auteurs françaises.
Clairement. Mais elle, vraiment, allez-y. C'est son premier bouquin édité. Une dinguerie de qualité. Enfin, franchement, la plume, elle est vraiment, 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 vraiment incroyable. Et l'histoire... Enfin, on met un peu de temps à s'immerger dans l'histoire. Et c'est pas... ultra facile d'accès, il faut pas y aller quand on est fatigué, il faut vraiment pas y aller en s'attendant à trouver des personnages tout doux et avec lesquels on va avoir de la facilité à empathir parce que c'est pas le cas, il n'y a pas de personnages blancs du tout dans cette histoire, ils sont tous controversés, c'est vraiment le moindre qu'on pourra dire. Mais, bon alors déjà, l'intrigue elle est vraiment cool, ça va parler, alors... Le propos de Margot Lawton, c'est de nous expliquer qu'il n'y a pas de camp de gentils et de camp de méchants quand il s'agit d'une guerre. Chacun va servir ses intérêts. Et si ses intérêts ne sont pas concordants avec celui de l'ennemi, même si l'action qu'il va faire est absolument immonde, eh ben, ils vont la faire. Et ils vont la faire sans tellement se retourner dans leur lit parce qu'ils vont avoir tous l'impression d'avoir fait ce qui servait leurs intérêts. Et du coup, d'avoir fait quelque chose de tout à fait cohérent et logique. Je trouve aussi qu'il résonne tout particulièrement dans notre climat politique actuel, où il y a des montées d'extrémisme un peu partout. Et quand je parle d'extrémisme, je parle de l'extrême droite, que ce soit très clair. Et elle va vraiment se servir de ce qu'on connaît de ces mécanismes-là dans son histoire. Là, les peuples persécutés, ça va être les elfes. Et précédemment les humains, donc on comprend qu'il y a eu une période où les humains ont été persécutés, qu'aujourd'hui c'est les elfes, on essaye de comprendre parce qu'on va, bouger sur deux temporalités. Donc c'est une histoire un peu particulière parce qu'on en commence par la fin. Et ensuite on va avoir tout le déroulé de l'histoire, mais du coup on sait comment ça se termine, a priori. Et du coup on a des personnes qu'on se dit que ça va être des gens qu'on n'aime pas, et en fait... Tout le long de l'histoire, on en comprend leurs enjeux, et même si on n'est pas toujours en accord, parce qu'on aimerait que ça serve... Enfin, on aimerait que ça prenne une autre direction, parce qu'à un moment donné, même si les personnages sont sombres, même si les personnages prennent des décisions avec lesquelles on ne va pas être d'accord, même s'il y a vraiment des choses où on se dit que là, ils sont indéfendables, ben, on s'y attache quand même, on comprend les tourments dans lesquels ils sont... les envies de faire bien qu'ils vivent, même s'ils n'y arrivent pas toujours, on comprend leurs dilemmes moraux, et elle parvient à nous les rendre tous vraiment attachants. Et c'est vraiment un tour de force parce que c'était pas gagné d'avance quand on lit les premiers chapitres de l'histoire. On se dit, oh là là, mais ils ont pas du tout. Et vraiment, elle fait un tour de force pour moi, Margot Lawton. Et toute sa plume est vraiment, vraiment bien travaillée, sans se prendre trop au sérieux non plus. Elle reste dans la simplicité. Elle n'essaye pas non plus de nous montrer qu'elle a tout plein de vocabulaire. Et... Enfin voilà, elle le fait uniquement quand ça sert son personnage. Tous ses personnages n'ont pas les mêmes niveaux d'éducation. Donc elle en met une pépite, une pépite. Et je me permets aussi de le dire parce que il n'est pas facile d'accès et je pense que c'est facile d'abandonner. Et j'aurais vraiment sincèrement pu abandonner au premier quart, voire même encore un peu après. Faut un peu s'accrocher au début. Parce que tout est très dense, tout est très lourd, et au début les personnages sont vraiment assez peu attachants. Du coup, on met un peu de temps à comprendre tous les petits liens qu'elle est en train de nous faire. Il y a énormément de personnages, beaucoup d'enjeux qu'il faut qu'elle développe, donc au début c'est difficile et on s'y perd un peu. Donc je vous invite, si vous avez envie de vous lancer, à le faire quand vous êtes reposé et à vous accrocher un peu au début parce que la suite est vraiment incroyable.
Bon, je vais recevoir Julien.
Ah oui, bah j'ai une paroco, mais bon, j'en vous en ai déjà parlé, mais j'ai finalement fini Campus Driver et j'aurais jamais dû, c'était vraiment une perte de temps.
Bah,
Qu'est-ce que
j'ai
j'ai
fini les jumeaux croche-morts du coup pour mon challenge Halloween. J'en avais déjà mis en paroco le tome 1.
Et du coup, bon.
Et j'ai continué, bon, parce que bah, je les avais. C'est pas vrai, je les ai commandés pour mon challenge en plus. Mais bon. Du coup, je voulais faire un épisode sur la trilogie et en même temps, j'étais très curieuse de voir si mon hypothèse de on a coupé un livre en trois pour vendre plus d'exemplaires grâce au nom de l'autrice était juste ou pas. Et c'est effectivement le cas en fait. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3 sont en fait l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3 divisés en trois livres. Donc il n'y a aucune résolution d'intrigue dans aucun des bouquins vu qu'ils sont censés être un seul. Et du coup, dans le premier tome, on double l'introduction, quoi. Inutile au possible. Je pense que largement, le premier tome, il pourrait tenir en 50 pages, quoi.
Ouais.
Voilà. Et voilà. Mais il a plu parce que l'ambiance, elle est sympa, que l'autrice, elle est connue, et puis c'est Flammarion jeunesse, alors qu'il y a des gorges tranchées, du sang partout. Mais bon, bref, ça, après, c'est chacun sa ligne éditoriale, hein, mais disons que ça peut surprendre.
En effet.
Hein. Mais voilà, et puis en plus, c'est une intrigue vraiment mais vue et revue et revue, qui en plus n'est même pas tout à fait résolue. Quand je vous parle, il n'y a pas de résolution d'intrigue, même dans le tome 3, c'est parce que en fait, l'intrigue, elle n'est pas résolue du tout. On retourne à la case départ, quoi, en gros. Mais enfin, bref. Donc vraiment, en plus, du coup, j'ai regardé le prix, parce que je me suis dit, quand même, peut-être qu'ils ne les font pas si cher, parce qu'en plus, du coup, ils sont fins pour de la jeunesse, mais ils sont quand même 18 euros pièce, quoi. Ça fait cher pour une série qu'on a déjà lue. Juste pour avoir une plume un peu spéciale. Voilà, ce
Point,
sera ma part.
point, point.
J'avais pas recoupé pas forcément la suite non plus.
Donc cette saga pas nécessaire à avoir dans vos bibliothèques quoi.
Franchement, si vous aimez l'horreur, il y a d'autres choses bien meilleures ailleurs. Hein. Clairement.
Eh ben merci de nous avoir écoutés. On rappelle que vous pouvez nous trouver sur Instagram plus régulièrement sur Lecture des Lunes et Laurily Fantasy. Et on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode d'un podcast de dragons et de romans.
Et peut-être même qu'on aura une surprise pour Noël.